Donc ce que je vous propose aujourd'hui, pour commencer cet après-midi, hein, pour la digestion, c'est une petite excursion sur le territoire ludique, puisque la fantaisie, de manière générale, a beaucoup investi ce paysage-là, et particulièrement la culture ludique de masse, avec des licences bien connues maintenant, que sont Donjons et Dragons, ou plus récemment World of Warcraft. Je reviendrai plus en détail sur certaines de ces licences. Ce sera même l'essentiel de mon exposé, en fait, d'essayer de voir comment ces licences de la culture de masse s'appuient sur différents supports pour développer à la fois des jeux, mais aussi des fictions, et comment les dimensions fictionnelles et ludiques sont véritablement imbriquées. Donc c'était le premier point que je voulais vous présenter, en gardant à l'esprit aussi que finalement il y a une double entrée dans ces univers, une entrée qu'on pourrait pour aller vite nommer fictionnelle, avec une logique de développement de monde, et une entrée là beaucoup plus marchande, qui est astreinte à des stratégies marketing fortes, et qui a provoqué ou qui a profité aussi de ce qu'on appelle les convergences transmédiatiques, c'est-à-dire cette mobilisation de différents supports mis au service d'un même univers. Voilà, donc pour ces quelques paroles d'introduction. Donc juste pour vous donner un petit aperçu de ce que j'appelle une omniprésence de la fantaisie ludique dans le paysage culturel, puisque là, vous avez trois exemples relativement disparates. Vous avez World of Warcraft, qui est un petit peu le symbole de la fantaisie ludique de masse actuellement. C'est le titre qui a fait émerger à la culture de masse le jeu de rôle en ligne. Donc un pur produit de la culture ludique. Et puis vous avez à côté des supports peut-être un peu plus inattendus, qui en tout cas ne sont pas nés avec la fantasy, mais qui ont fini par s'en emparer, qui ont fini par y céder en quelque sorte. Que là, l'exemple que je vous ai mis, c'est l'indétrônable Monopoly. Et puis le Lego, qui lui aussi petit à petit investit cet univers, que ce soit par l'achat de licences, si on a le temps, j'ai quelques exemples à la fin, donc par l'achat de licences, mais aussi développe ses propres univers, marqué du sceau de la fantaisie. Voilà, donc ce qui est particulièrement remarquable avec cette fantaisie ludique, c'est sa tendance à servir de locomotive à l'industrie du jouet et du jeu, en proposant des nouvelles pistes, des nouvelles voies d'exploitation marchande et fictionnelle de ces univers-là. Là, je vous ai mis des exemples pour illustrer ça. Donc Donjons et Dragons, je ne m'attarde pas parce que je vais revenir très en détail dessus. Vous avez aussi donc les maîtres de l'univers que je vous ai mis en bas à droite, qui me semble intéressant parce que, pour resituer un peu le contexte, c'est un dessin animé donc du début des années 80. Alors il arrive dans un contexte aux États-Unis, dans une période de dérégulation de la publicité enfantine, donc sous l'impulsion des politiques de Ronald Reagan notamment. Qui fait que les fabricants de jouets vont pouvoir à la fois s'adresser plus fréquemment à l'enfant à travers des spots de publicité, mais aussi pouvoir produire des dessins animés, donc une forme de publicité détournée finalement, pour pouvoir en rajouter une couche en quelque sorte sur les jouets à vendre, mais aussi pour pouvoir donner ce qu'on appelle une backstory à ces jouets, à leur donner une espèce d'univers prescrit à proposer aux enfants. Et ça, c'est un modèle qui va s'ériger en norme dans les années 80. En tout cas, pour ceux de ma génération, on a tous connu les dessins animés et la série de jouets développée avec. C'est un modèle, d'ailleurs, qui se poursuit actuellement, même si il s'est sophistiqué, qu'il y a d'autres logiques. Et il est intéressant de voir que, là encore, c'est un univers de fantasy qui a servi de pionnier, en quelque sorte, à cette expérimentation. Alors, je triche un tout petit peu, en fait, parce que le tout premier, pour être exact, c'est Charlotte aux fraises. Voilà, pas tout à fait de la fantaisie, mais presque. Autre exemple que je vous ai mis ici, celui de Warhammer, où je reviendrai aussi dessus un peu plus en avant, que j'ai indiqué ici, même si c'est pas vraiment... On est à la limite de la culture de masse, en fait, parce que c'est plus un public de joueurs purs et durs, j'ai envie de dire, même si par l'intermédiaire de novélisations, ils arrivent aussi à toucher un autre public. Mais c'est un univers qui a eu plus, en fait, l'impact de cet univers est plus important que sa surface de vente sur les thèmes traités par la culture ludique et la façon de les traiter. Donc là aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vous ai mis aussi Magic pour le phénomène jeu de cartes à collectionner. Hein, c'est Magic qui a lancé cette mode-là. Et puis World of Warcraft, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, alors, de quoi je vais vous parler plus précisément ? Déjà d'une hypothèse qui, je pense, est un peu transversale à tout cet exposé, qui est de se demander si finalement, il n'y a pas une espèce de logique ludique qui est intrinsèque au genre, ou en tout cas à un certain avatar du genre, à une certaine modalité du genre. Est-ce qu'on ne peut pas parler finalement de ludicité de la fantasy, de potentiel ludique ? Qui expliquerait, en dehors des stratégies marketing qui sont réelles et indéniables, le pourquoi de la présence de ce genre-là dans les jeux, et le pourquoi de leur succès assez fréquent. Donc, plus précisément, je vais vous détailler les trois univers que vous avez ici. Alors, il peut être surprenant de classer Le Seigneur des Anneaux dans la culture ludique, étant donné qu'au départ, c'est clairement une œuvre littéraire qui appartient maintenant à la culture consacrée, on va dire, à la culture lettrée, même si ça a mis du temps et qu'il y a encore des résistances. On peut considérer qu'une fois qu'un auteur est étudié, notamment par des chercheurs en littérature, un pas important a été franchi. Et finalement, ce qui est intéressant avec Le Seigneur des Anneaux, ce qu'on verra, c'est qu'il a le double statut maintenant d'œuvre littéraire de la culture consacrée et en même temps de produit culturel de la culture de masse. Et puis, en prenant un peu de hauteur, on essaiera de voir aussi comment la fiction s'empare du jeu, mais aussi comment le jeu s'empare de la fiction, donc quels sont les effets de circulation, de transformation d'un support à l'autre, en mettant l'accent sur le roman et la littérature, hein, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Si j'ai le temps, parce que j'ai fait beaucoup de diapos et j'ai finalement pas beaucoup de temps, je vous parlerai très rapidement des publics de cette culture. On essaiera de voir à qui s'adresse cette culture, quelles thématiques sont traitées et comment elles sont reçues finalement et quels problèmes ça peut poser, notamment dans les médias ou au niveau des critiques qui sont adressées au genre et notamment à la fantaisie ludique. Alors, donc, j'ouvre avec Donjons et Dragons, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est le grand ancien d'un format ludique dont on retrouve la logique aujourd'hui de manière assez écrasante. Et ce type, c'est le jeu de rôle. Et cette logique, c'est en fait d'introduire dans le jeu le principe fictionnel et l'effet de monde. C'est-à-dire que finalement, ce qu'a proposé le jeu de rôle de novateur, c'est pas comme on l'entend quelquefois, cet effet de simulation ou cet effet de proposer des personnages qui sont modélisés avec des caractéristiques mathématiques pour les représenter. C'est plutôt le fait que le jeu n'a de sens qu'en rapport avec la fiction, et que si vous enlevez l'univers de fiction du jeu, le jeu disparaît. Donc on est en rupture, dans le cas du jeu de société, on est véritablement en rupture avec ce qui se passait avant. Et aujourd'hui, cette obligation fictionnelle se retrouve dans beaucoup de supports, et notamment dans les univers de fantasy. Hein, donc... il me semble qu'à ce titre-là, Donjons et Dragons est relativement incontournable, surtout quand on essaye de s'intéresser un petit peu aux transformations d'héritage littéraire de la fantasy et ce que ça devient dans la fantasy ludique. Quand on regarde par exemple les adaptations au cinéma du Seigneur des Anneaux, il y a certains codes, certains stéréotypes, certaines esthétiques qu'on ne peut pas ne pas mettre en relation avec ce genre-là et avec ce type d'imaginaire, ce type de jeu précis. Donc effectivement, Donjons et Dragons essayait d'être novateur dans cette immersion fictionnelle qu'il proposait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sa postérité, elle tient finalement autant à ce principe-là qu'à la postérité des stéréotypes qu'elle a mis en place, puisque Donjons et Dragons, au départ, c'est quelque chose de très simple. C'est un petit groupe d'aventuriers, donc des personnages typiques de la fantasy, le barbare, le nain, le voleur, etc., qui partent explorer des donjons et qui vont massacrer du monstre en quantité industrielle pour récupérer des trésors. En gros, c'est à peine schématisé, c'est ça au départ en tout cas. Ce qu'on va voir, c'est que ce modèle-là, sans doute de par sa simplicité, a vraiment connu un grand succès, est toujours repris, et même maintenant allègrement parodié, ce qui prouve d'ailleurs l'ancrage de sa popularité et de ses codes, puisque pour qu'on puisse parodier, pour qu'il y ait second degré, il faut qu'on comprenne le premier. C'est intéressant de voir qu'à partir d'éléments très simples, on est arrivé à un développement très important et un succès très important et un ancrage très fort dans l'imaginaire ludique et dans l'imaginaire de la fantasy même en général, puisque ces parodies, ces reprises ne se retrouvent pas seulement dans les produits ludiques. Donjons et Dragons, c'est aussi... alors peut-être pas un pionnier, mais en tout cas un exemple archétypal des licences qui se déclinent en plusieurs supports et qui adoptent ces stratégies transmédiatiques sur plusieurs plans, à la fois sur les supports et sur les univers qu'ils vont proposer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réduire à un seul univers, on va essayer d'en créer plusieurs tout en ayant une espèce de marque de fabrique de l'univers qui va les rendre reconnaissables, tout en proposant une diversité du coup de fiction et une diversité de produits à vendre, évidemment. Voilà, donc là je vous proposais juste quelques illustrations des premiers temps du jeu de rôle, juste pour vous montrer les débuts très artisanaux. On était loin des pontes des industries culturelles dans leur tour de verre qui essaient de voir ce qu'ils pourraient faire pour faire de l'argent. C'était vraiment très artisanal. Donjons & Dragons, c'est vraiment une success story à l'américaine, puisqu'aujourd'hui, on est parti de deux auteurs dans un garage à peu près, à aujourd'hui une société qui s'appelle Wizards of the Coast, qui a été rachetée en 2000, je crois, par Hasbro, donc par un géant du jouet, et qui aujourd'hui a une surface commerciale et médiatique très importante. Voilà, donc là je pense qu'on peut passer, c'était aussi pour vous montrer les différents développements du jeu de rôle, et notamment de nouvelles logiques éditoriales, c'est-à-dire qu'on va plus se contenter d'une boîte de jeu, on va décliner le jeu sous différents livres de règles. Voilà, ça c'est la dernière édition, on voit aussi un petit peu l'évolution du graphisme. Voilà, donc là c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le développement d'univers, le volet fictionnel en fait de ces stratégies transmédiatiques, puisqu'en fait Donjons et Dragons s'est vu confronté assez tôt à des critiques sur l'extrême simplicité de son principe, avec des joueurs qui demandaient un peu plus de cohérence d'univers, un peu plus d'effet de monde finalement, avec une géographie, des sociétés, une histoire de ces mondes, etc. Et pour répondre à cette demande, donc Donjons et Dragons a multiplié les univers associés. Voilà, je vous ai mis ce que je pense être les trois plus célèbres, notamment les Royaumes Oubliés et Dragonlance, qui à leur tour ont fait l'objet de déclinaisons médiatiques, des novélisations, beaucoup de novélisations, notamment les Royaumes Oubliés. Je crois qu'on doit en être à 90 titres environ traduits en français, donc chez Fleuve Noir. Dragonlance aussi a des novélisations, des bandes dessinées également. Et les Royaumes Oubliés ont eu un succès non négligeable en étant adaptés en jeux vidéo. Donc il y a quelques classiques du jeu vidéo qui appartiennent à cet univers. Voilà, vous avez Eye of the Beholder ici, et à droite, Neverwinter Nights. Donc déclinaison d'univers, déclinaison de support aussi. Voilà, je ne vais pas détailler les jeux, juste vous préciser que c'est un processus qui a commencé relativement tôt quand même, puisque le jeu que vous avez en haut à gauche est un petit jeu électronique qui date de 1980. Donc c'est pas une stratégie très récente, même si ça s'est évidemment beaucoup accentué, notamment après le rachat indirectement par Hasbro. Voilà, donc ça, c'est les images du jeu de rôle en ligne, Donjons et Dragons, qui a fait un petit flop, hein, il faut le dire. Il faut dire que World of Warcraft écrase un petit peu tout sur le marché. Voilà, donc là, je vais vous parler des succès des codes du dungeon crawling. Je vous ai mis des exemples ici, là aussi plus ou moins récents, avec un jeu vidéo assez ancien en haut à gauche qui est Dungeon Master, et d'autres titres qui sont des jeux de plateau, des jeux de cartes, etc., un peu plus récents, qui reprennent tout ce principe-là, avec des ambiances différentes, ou avec des petites mécaniques ludiques qui font leur spécificité, mais qui s'astreignent tous à ce principe-là. Et on retrouve aussi cette dynamique-là dans le jeu vidéo. Alors, je vous parlais des parodies et de l'ancrage des codes. Donc là, pour illustrer un petit peu tout ça, donc ça se retrouve sur le terrain ludique avec un jeu de cartes comme Munchkin, par exemple, qui a connu beaucoup d'extensions. Ça se retrouve aussi chez les joueurs, hein, directement. Vous avez pas mal de petits films amateurs et de vidéos amateurs qui, ce que je vous ai mis, ça s'appelle Farador. Donc vous pouvez chercher, ça se trouve très facilement. C'est très drôle en plus. Ça dure 10 minutes et c'est un petit film sur qui se moque gentiment à la fois des rôlistes acharnés et des pontifs du genre. Voilà. Et puis, je vous ai mis l'exemple du Donjon de Nihilbuk aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est parti d'un site internet qui nous proposait gratuitement comme ça des petits sketchs audio à télécharger, là aussi sur ce type de récit. Et puis avec le succès, sont venues les déclinaisons et la commercialisation, donc des disques, une bande dessinée, des figurines à collectionner, il y a même un groupe de musique qui s'appelle le Naol Band, qui fait des tournées. Voilà, donc ce qui est intéressant avec Donjon de Nihilbuk, c'est que finalement, l'objet de la moquerie initiale, qui était non seulement l'univers, les clichés de la fiction, mais aussi la façon de le vendre, finalement on retourne vers l'objet de la critique, vers ce qu'il critiquait, c'est-à-dire la déclinaison transmédiatique et la commercialisation de ce point de vue-là. Donc c'est un peu comme si, une fois qu'on avait mis le doigt dans l'engrenage, on était un petit peu prisonnier de cette logique-là. Voilà pour Donjons et Dragons. Je passe à mon deuxième exemple que je voudrais approfondir un petit peu, qui est celui de Warhammer. Donc je vous disais que c'est un univers un petit peu plus confidentiel, dans le sens où ça s'adresse vraiment à ce qu'on appelle les hardcore gamers, aux gens qui sont vraiment joueurs et qui passent beaucoup de temps à ça. Donc c'est un univers qui est assez particulier, parce que finalement c'est quasiment le seul... la société qui l'édite n'édite pas d'autres univers. C'est-à-dire qu'elle est vraiment consacrée à cet univers-là. Donc c'est vraiment son univers étendard. La seule exception, et c'est intéressant, c'est qu'ils ont récupéré... Donc cette société, c'est Games Workshop. Ils ont récupéré la licence Seigneur des Anneaux. Mais justement, à cause de la crédibilité qu'ils avaient, je pense, et de leur surface de vente, évidemment... mais aussi à cause de l'ancrage dans lequel il se trouve auprès d'un certain public de joueurs visé par les licences ludiques. Donc c'est un univers avec une identité forte, dans le sens où, contrairement à Donjons et Dragons qui se contentait d'un petit habillage fantasy, Warhammer, dès le départ, propose des univers très denses. Donc il y a deux déclinaisons, en fait, fantasy et science-fiction. Pour ce qui est de la fantasy, on peut le présenter en disant qu'il y a des références très fortes à l'Europe du bas Moyen-Âge, à peu près, matinées d'influences qui ont été cherchées chez Tolkien et chez Moorcock. Donc c'est un univers assez sombre, assez violent, assez cru, mais qui a eu aussi une certaine influence sur les productions ultérieures, sur les univers ludiques ultérieurs. Notamment il y a pas mal de similarités dans l'univers de World of Warcraft et Warhammer. Il est intéressant de voir d'ailleurs que les modèles de développement sont à peu près les mêmes. Ce qui change, c'est juste l'échelle de vente et le succès de Warcraft via le jeu vidéo et le MMO. Alors, une des particularités aussi de cette licence là c'est que c'est une licence pleinement ludique, c'est-à-dire qu'elle est d'origine ludique. c'est pas une adaptation d'œuvre fictionnelle, mais que elle porte une attention très soutenue à son univers et à ses novélisations, à ses récits. Y compris dans les jeux qu'elle présente, il y a une dimension narrative et fictionnelle très forte, avec des textes d'ambiance, des présentations des différents peuples, tout ce genre de paratexte en fait, qui vient enrichir le jeu, lui donner un sens et vraiment l'inscrire dans un univers qui dépasse chaque support individuellement. Donc c'est pas le seul à faire ça, mais là aussi c'est un archétype de ce type de pratique, tout en portant attention à la diversité de ses supports. Voilà, donc là aussi on retrouve beaucoup de choses, jeux de rôle, bande dessinée, jeux de figurines en bas à gauche, puisqu'il est parti du jeu de figurines en fait, jeux vidéo, novélisation, jeux de cartes, et en fait on retrouve tout ce que je vous présente sont des illustrations de ça. Alors je vous disais que la logique fictionnelle était importante. On peut voir aussi une logique fictionnelle forte dans le jeu de figurines en lui-même et dans la stratégie marketing qu'il y a derrière. Puisqu'en fait, Warhammer, le jeu de figurines, propose aux joueurs, donc chaque joueur a une armée, donc dans cet univers-là, voilà, et donc c'est un jeu de bataille. Mais chaque joueur doit s'acheter lui-même son armée, se composer lui-même son armée, la peindre, enfin la monter, la peindre. Donc il y a une dimension modélisme à la fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la façon de constituer son armée, dans ce qu'on va acheter ou pas, dans le choix de son armée, des unités, dans l'esthétique qu'on va déployer, il y a aussi une relation à l'univers, il y a aussi une relation à la fiction, et donc un intérêt supplémentaire à développer les supports fictionnels et narratifs de la part de l'éditeur. Voilà, donc ça c'est le jeu de rôle qui a été développé aussi, donc les deux versions du jeu de rôle qui ont été développées aussi assez tôt derrière le jeu de figurines. Là on retrouve un peu la même ludique, dynamique dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire essayer de diversifier les univers tout en gardant une patte Games Workshop. Voilà, on peut continuer à décliner les supports. Là ce sont les plus récents, il y a eu une espèce de reprise de l'offensive commerciale de la licence il n'y a pas très longtemps, en saturant de nouveau les marchés avec des nouveaux produits, et puis donc cette importance des novélisations. Alors j'ai pas pris les chiffres avec moi, mais il y a beaucoup de collections différentes qui explorent aussi différentes facettes de différentes périodes de l'univers. Avec une chronologie de l'univers qui est exploitée aussi de différentes façons. Voilà, un dernier regard sur le jeu de figurines. Et j'en viens au Seigneur des Anneaux. Donc là, j'ai emprunté une expression à Anne Besson que j'ai trouvée intéressante. D'ailleurs, j'aurais pu lui piquer sans rien dire, puisqu'en fait, ça n'a pas encore été publié. Mais en fait, elle a utilisé cette expression à l'occasion d'un colloque sur Tolkien. Et c'est intéressant parce que ça met en lumière ce que j'évoquais au tout début, c'est-à-dire la double inscription de Tolkien, de l'héritage de la Terre du Milieu, dans la culture académique. Même si ça peut se discuter, mais on va dire que le Seigneur des Anneaux a un pied dans les deux mondes, le légitime et la culture de masse ou la culture populaire. Et ce qu'elle entendait par ça, par fécondité de malentendu, c'est que finalement on peut se demander s'il n'y a pas un grand écart assez phénoménal entre les intentions littéraires de Tolkien, le message qui est véhiculé, la façon de construire son monde et ce que ça voulait dire pour lui, et les évolutions que ça a entraînées dans la culture ludique et dans la culture populaire. Puisque finalement, quand on regarde notamment les films de Peter Jackson, ce primat à l'aventure, à l'action, aux scènes de bataille, avec des épisodes un peu humoristiques, de comic relief, toutes ces stéréotypes qui ont été aussi véhiculés par Donjons et Dragons, qui, à bien des égards, à mon avis, a constitué une espèce de filtre simplificateur de la Terre du Milieu, qui, paradoxalement, a assuré la popularité et la continuité de la popularité de Tolkien, tout en appauvrissant un petit peu la richesse de l'univers. On a une vraie contradiction si on en reste à ces éléments. Ce qui me semble central, moi, dans l'héritage tolkienien, qu'on peut appeler comme ça, c'est certes cet ensemble de bestiaires, de figures symboliques qui fait que quand on compose de la fantasy, et notamment dans la culture ludique de masse, on ne peut pas se passer d'orques, d'elfes, etc., ou de déclinaisons équivalentes. Il y a cet aspect-là, bien sûr, mais ce qui me semble avoir eu le plus de postérité, et ce qui a rendu possible aussi, à mon avis, à la fois la richesse fictionnelle de cette culture et les possibilités marchandes et marketing que ça a entraîné, c'est la conception de la fiction sous-tendue par le travail de Tolkien, qui est que l'univers de fiction n'est pas réductible à la narration qu'on en fait. Et que finalement, le roman ou le récit ne vont faire que traverser quelque chose de beaucoup plus large sur lequel on écrit, mais dont on ne révèle pas tout, qu'on va pouvoir révéler dans d'autres romans. Donc à mon avis, c'est peut-être la composante la plus essentielle de l'héritage et de la postérité de Tolkien, c'est cette façon d'envisager la fiction comme monde et non pas seulement comme narration ou comme récit. Bien sûr, il y a sans doute un effet de légitimité du merveilleux avec Tolkien qui a joué, qui fait qu'on invoque Tolkien parce que Tolkien est plus légitime que Donjons et Dragons. Mais encore une fois, je pense que la logique structurelle qu'il y a derrière est sans doute peut-être plus importante que les éléments symboliques de surface. Voilà, donc j'ai dit que cette licence, cet univers était finalement entre deux mondes. Elle est aussi entre deux licences, en quelque sorte, puisque... on a une licence qu'on peut appeler littéraire, pour aller vite, et une licence cinématographique. Puisqu'en fait, les éditeurs n'ont pas attendu la sortie des films de Peter Jackson pour proposer des jeux qui s'inspiraient, enfin qui inscrivaient leur contexte directement dans la Terre du Milieu. Il y en a eu avant. L'apparition des films a provoqué un boom de ces produits dérivés, de ces nouveaux jeux, de ces nouveaux supports sur la Terre du Milieu. Mais du coup, on a un dédoublement de la licence avec ceux qui ont le droit d'exploiter l'image du film et ceux qui doivent, soit par choix, soit par défaut, inventer leur propre esthétique et ne se contenter, entre guillemets, de ne faire référence qu'à Tolkien. Les pauvres. Voilà, donc pour illustrer un petit peu en images, pour vous montrer qu'on n'avait pas attendu les films pour avoir des exploitations de la matière tolkienienne, vous avez à gauche un vieux jeu de rôle donc sur la Terre du Milieu, qui est intéressant à analyser en termes de rapport à l'œuvre d'origine, puisque finalement, quand vous avez une adaptation d'une œuvre, il est intéressant de voir si le jeu ne fait que prendre un habillage pour profiter d'un effet médiatique ou d'un effet de légitimité, ou s'il y a une véritable mise en jeu de l'univers en mettant en jeu des thématiques qui sont présentes dans le roman, en faisant en sorte qu'en jouant, on se retrouve, on réexplore en fait l'univers littéraire. Ce que la pratique des joueurs puis les critiques assez vite ont montré, c'est que c'est que il y a une véritable recherche d'adéquation pour certains supports entre le fait de prendre l'univers et de le restituer vraiment selon la logique littéraire. Pour être plus clair, avec le jeu de rôle Les Terres du Milieu, vous aviez un système de simulation justement extrêmement simulationniste, c'est-à-dire qu'il vous permettait de tout simuler. Vous pouviez savoir si vous décochiez une flèche à un gobelin, si la flèche atteignait le gobelin à l'omoplate gauche ou droite, ce genre de choses, un truc assez délirant. Or, quand on regarde la logique des romans, je pense que c'est le genre de détail dont on se moque un tout petit peu, et qui a fait dire que finalement tout le souffle épique, tout ce que les lecteurs de Tolkien avaient apprécié, était complètement perdu dans le jeu, qui en faisait complètement autre chose, et qu'il y avait une inadéquation forte entre l'univers qui a été adapté et sa modélisation ludique. Et donc ça, c'est des critiques qui ont eu une certaine portée, puisque maintenant, c'est quelque chose qui retient vraiment l'attention des éditeurs et des concepteurs. Disons que c'est là qu'on voit la ligne de partage entre la logique de produits dérivés, où finalement on fait un peu ce qu'on veut sur un univers de fiction, et la logique d'exploitation ludique et fictionnelle d'un univers dont on se revendique. Voilà, donc à côté je vous avais mis d'autres exemples jeux vidéo. Donc au milieu jeux vidéo, qui est relativement ancien, je crois qu'il y a début des années 80 pour vous montrer qu'on n'a vraiment pas attendu les films pour exploiter Tolkien de cette façon. Voilà, et donc là, on entre dans la licence cinématographique, avec, dans l'année de la sortie du premier film de la trilogie de Peter Jackson, une sortie en masse de différents supports, donc un nouveau jeu de rôle, un jeu de cartes à collectionner dans la lignée de Magic, et puis surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, avec la licence cinématographique, puisque les jeux vidéo permettaient en fait d'introduire des séquences de cinématiques et de faire appel aussi aux acteurs des films pour renforcer encore l'effet de convergence. Et c'est là qu'on voit que ces jeux sont vraiment des adaptations de la licence cinématographique et pas des romans, puisqu'on retrouve vraiment dans ces jeux-là les choix narratifs qui ont été faits par Peter Jackson, c'est-à-dire de privilégier l'action, de privilégier les scènes de bataille, de privilégier l'aventure, puisque les genres de jeux qu'on a là, ce sont des jeux de stratégie, des jeux d'action, des jeux d'aventure, donc qui reprennent vraiment le schéma des films et qui insistent à chaque fois sur des figures, les figures principales du film. Alors les figures principales qui sont dans le jeu vidéo assez peu finalement Frodon et les Hobbits, et au contraire beaucoup les figures les plus martiales et les plus aptes à endosser une simulation guerrière. Voilà, donc ça c'est d'autres exemples de jeux hors licence cinématographique mais plus récents, un peu sur tous les supports. Donc voilà, pour un petit peu vous donner une idée de ce que précisément des licences ludiques de la culture de masse peuvent donner en termes d'exploitation fictionnelle et en termes de choix éditoriaux et de stratégie. Donc je vais aller vite sur les autres points, et notamment sur les effets de circulation entre jeu et fiction littéraire et vice-versa. Puisqu'on a vu avec Tolkien et avec les autres exemples que finalement ça marchait dans les deux sens et qu'il y avait des adaptations ludiques de fiction littéraire ou autre, et qu'il y avait aussi des phénomènes de novélisation qui s'inscrivaient donc dans ces stratégies de convergence. Donc ce que je voudrais faire là, c'est peut-être plus insister sur un cas particulier qui est celui du jeu de rôle, qui, de par ses propriétés ludiques, est sans doute plus proche justement de la littérature et de la logique du récit littéraire. Donc on va essayer de voir ça rapidement. Donc là c'était juste des exemples, hein, donc d'autres, d'autres fictions littéraires déclinées sous forme de jeux. Voilà, donc Harry Potter, qui lui est vraiment plus là sur la logique de produits dérivés. Et puis donc quelque chose de plus adulte, on va dire, qui est Le Trône de Fer. Donc gros succès de la fantasy contemporaine, et qui a été adapté donc en différents jeux de société, et qui va aussi être adapté en série télé. Je reviendrai un peu dessus. Voilà, donc juste insister un petit peu sur le cas du jeu de rôle, puisque ce qui ressort beaucoup, c'est que si on essaye de dresser une liste des auteurs canoniques de fantasy, et notamment de fantasy anglo-saxonne, il y a très peu de ces auteurs qui n'ont pas fait l'objet d'au moins une adaptation de leurs univers en jeu de rôle. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Ça peut être des plus anciens, comme Conan, à des choses un petit peu plus récentes, comme justement Le Trône de Fer, en passant par Moorcock, Jack Vance et d'autres. Donc comme si on retrouvait, avec le primat de la fiction dans le jeu de rôle, la possibilité d'explorer ce qu'on a bien aimé dans ces univers littéraires par le biais d'autres types de récits, qui vont être des récits oraux entre joueurs, ce qui est le moteur, le principe même du jeu de rôle. Donc d'explorer ces univers de manière libre, et de manière plus approfondie que dans un jeu de société ou dans un jeu vidéo, où vous êtes forcément contraint d'une manière ou d'une autre par les possibilités techniques du jeu ou de votre machine, ou par le matériel du jeu que vous avez en face de vous. La grande spécificité du jeu de rôle, c'est qu'il dématérialise le jeu, et que donc seul l'imaginaire et aussi le régime de vraisemblance de l'univers de fiction vous limite dans vos actions. Voilà, et puis un autre point que les éditeurs présents ici pourront confirmer, je pense, et donner d'autres exemples, c'est l'effet passerelle, en fait, qu'il peut y avoir entre le fait d'être auteur de jeux de rôle, de commencer par là, même si peut-être que, vu la crise, en tout cas la stagnation que traverse le jeu de rôle actuellement, c'est peut-être un peu moins vrai, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas mal d'exemples d'auteurs de jeux qui en sont venus à non seulement à écrire des romans, mais à s'installer, entre guillemets, comme romancier, c'est-à-dire à avoir une œuvre qui ne se limite pas à un roman comme ça pour voir, mais qui constitue vraiment une activité d'écriture et de romancier. Donc là, je vous ai juste mis deux exemples. Mathieu Gabory et Jean-Philippe Jaworski. Mathieu Gabory, donc, qui est l'auteur d'Agone. Et parallèlement, alors là, j'avoue que j'ai un trou, je ne me souviens plus dans quel sens ça a marché, mais je ne sais plus s'il a fait Agone avant d'écrire le roman que vous avez à côté, les Chroniques des Crépusculaires, ou si c'est l'inverse. L'inverse. Voilà. Mais donc, il y avait cet effet passerelle-là qu'on retrouve aussi dans un autre de ces jeux qui s'appelle Écrim, beaucoup plus confidentiel, qui n'est pas vraiment de la fantasy non plus, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais il y a vraiment cette double casquette-là qui est très marquée, et puis ce débouché, entre guillemets, sur l'écriture. Alors là, je vous ai mis Bohème, parce que ce qui m'a intéressé dans ce roman-là, c'est que on retrouvait certains traits, certains thèmes de certains de ces jeux, parfois, je dirais mot pour mot. Enfin, c'était vraiment littéralement repris, agencé différemment, mais on voyait vraiment la filiation. Sans que ce soit dit. Et je trouvais ça intéressant, parce que je me demandais, j'ai écouté un de ces entretiens lors d'une journée d'études qui avait lieu à Villetaneuse sur la fantaisie, justement. Et je me demande si c'est un effet de distanciation vis-à-vis du jeu de rôle, donc vraiment prendre ses distances par rapport à ça pour vraiment se poser comme auteur, ou si c'est autre chose, mais il me semble qu'il y a un peu de cette logique-là. En tout cas, c'est ce qui se ressortait aussi de cette journée d'études. Donc, moi, ça m'intéresserait en tout cas. Voilà, je vous fais part de mon programme d'études. Hein, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais d'aller voir du côté des auteurs comment ils envisagent leur rapport à la fiction et leur rapport au jeu et leur évolution par rapport à ça. Et donc, le deuxième exemple, c'était de Jean-Philippe Jaworski, qui est surtout connu en jeu de rôle pour être l'auteur de Te Deum pour un massacre, qui est un jeu de rôle dans la veine historique, pur et dur. Dont l'action se situe durant les guerres de religion en France, et qui, lui, je ne vais pas dire qu'il a basculé, parce que je pense qu'il est toujours resté dans le milieu du jeu de rôle, mais qui a débouché, en tout cas, sur une activité littéraire, sur un genre qu'on pourrait qualifier de fantasy historisante aussi, donc avec un lien assez net, en tout cas, entre ces univers d'auteurs de jeux et ces univers de romanciers. Alors que cette symétrie ne se retrouve pas toujours, ou pas tout de suite en tout cas, puisque là je vous ai mis un exemple qui m'avait frappé, qui est celui de Jean-Luc Bizien. Donc Jean-Luc Bizien a été auteur de jeux de rôle lui aussi, et de jeux assez pointus, je dirais, c'est-à-dire assez ésotériques, assez oniriques, très éloignés justement des clichés à Donjons et Dragons. Des jeux comme Chimère, des jeux comme Hurlement. Et pourtant, je pense que ça devait être l'un de ses premiers romans, c'est un roman pour la jeunesse ici, donc Les Mines de Langue du Lune. L'intrigue, en fait, les personnages et l'intrigue reprennent le canevas très classique d'une partie de Donjons et Dragons, en fait, d'une exploration de donjon. On va aller explorer un donjon, on va aller tuer le dragon et on va récupérer le trésor. Alors, c'est adapté aux contraintes de la littérature de jeunesse, c'est-à-dire que finalement dans Donjons et Dragons, le principe c'est le gain de puissance et l'enrichissement. Donc ça a été un petit peu atténué en littérature de jeunesse. Là, la récompense des héros, c'est plus des réflexions identitaires, ce genre de choses. Mais on retrouve vraiment le même canevas. Donc c'est comme si l'auteur s'était un petit peu retourné aux racines de son imaginaire ludique pour commencer à écrire et après s'éloigner vraiment de ce type-là. Il n'y est pas du tout cantonné, mais c'était intéressant de voir que c'est par là qu'il a commencé. Voilà, et puis... Donc ça, c'était juste pour vous signaler... donc ce que je vous présentais tout à l'heure sur l'adaptation en série télévisée du Trône de Fer. Pourquoi je l'ai mentionné, c'est parce qu'on rejoint, à mon avis, ce qui constitue peut-être la dernière frontière, le dernier domaine qui reste encore vraiment à conquérir à la fantasy, et qui est aussi un enjeu de légitimation forte, je pense, du genre, qui est de conquérir vraiment le cinéma et la télévision. Puisque finalement, en dehors de quelques œuvres éparses, dont le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas eu vraiment de succès qui soit à la fois populaire et critique de ces univers-là à la télé ou au cinéma, pour des raisons diverses. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une vraie attention, je pense, des industriels du jeu et des éditeurs à cette dimension-là maintenant, quand ils essayent d'adapter leur jeu ou les livres ou des univers de fantasy à l'écran. Pourquoi je vous dis ça pour le Trône de Fer ? C'est parce que la chaîne, vous voyez en bas, qui produit et qui va diffuser cette série-là, c'est HBO aux États-Unis. Donc je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, mais je vous présente juste la visée un petit peu du pourquoi le choix de cette chaîne. C'est que HBO aux États-Unis, c'est la chaîne qui est acclamée régulièrement par la critique pour ses séries télévisées. C'est la chaîne qui est réputée avoir enclenché cette espèce de mini-révolution qui fait que maintenant les séries télévisées sont mis sur un pied d'égalité avec beaucoup de films, et que la créativité au cinéma est concurrencé par la créativité à la télévision. Donc HBO a un vrai capital, une vraie légitimité en fait dans l'approche de ces de la confection des séries télévisées et des adaptations aussi. Donc c'est assez révélateur, je trouve, ce choix-là. Ce qui me conforte aussi dans cette idée, c'est le fait qu'il va y avoir une adaptation au cinéma de World of Warcraft. Alors oui, j'entends la défiance, et je la comprends quand on voit certaines adaptations type Donjons et Dragons. Mais justement, ce qui est intéressant, il y avait une vidéo très, très marrante, même si c'était assez vexant, qui circulait sur Internet. C'était un réalisateur allemand, je crois que ça s'appelle Uwe Boll, si je me souviens bien. Voilà. Et on voit la vidéo de ce monsieur qui arrive au siège de Blizzard pour se proposer pour être réalisateur de World of Warcraft. Et en substance, les gens de Blizzard lui disent non, très clairement. Ils lui disent non parce qu'en fait, on va chercher un vrai réalisateur. Et quand je dis en substance, c'est même pas vrai, ils lui ont dit ça en fait. Et ce réalisateur, en fait, c'est Sam Raimi, donc, qui va réaliser World of Warcraft. Donc c'est quelqu'un... donc là encore, je rentre dans la logique des producteurs. Sam Raimi, c'est quelqu'un qui est légitime pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il a une légitimité dans le cinéma de genre. C'est quelqu'un qui vient du gore, comme Peter Jackson, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a aussi une légitimité populaire, notamment après ses films, ses adaptations de Spider-Man. Donc il y a la conjonction des deux légitimités. C'est quelqu'un qui a une signature cinématographique aussi. Donc il y a aussi la recherche, encore une fois, de ce dernier obstacle à passer, en quelque sorte, pour peut-être conquérir de nouveaux publics et aller au-delà de l'étiquette culture de masse ou culture médiatique ou tous les qualificatifs qu'on voudra bien donner. Voilà. Et... alors, dernier point. Oui, en même temps, je pense que je vais juste vous parler de la question des âges. Parce que sinon, bon, les autres, on va se perdre un peu, vu le temps qui me reste. Ce qui me semble intéressant avec cette fantaisie ludique sur le plan des publics, alors ça tient pas seulement à la fantaisie, ça tient aussi à des évolutions de la représentation du jeu, en fait, dans la société, qui fait que les publics du jeu sont de moins en moins enfantins, pour aller vite. Ça ne veut pas dire que les enfants ne jouent plus ou jouent de moins en moins, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls à jouer, d'une part, et d'autre part que les adultes qui jouent le font de manière décomplexée. Là encore, je parle d'une tendance et pas d'un fait établi pour tout le monde. Et que, dernier point, de plus en plus, les univers qui intéressent les enfants et les adultes ont tendance non seulement à se ressembler, mais à être les mêmes par moment. Et donc, on peut se demander si la fantasy ludique ne participe pas de cette dimension transgénérationnelle des pratiques et des intérêts. On voit ça assez tôt en fait avec Donjons et Dragons, puisque Donjons et Dragons dans les années 80 avait aussi en partant du public adolescent des débuts essayé de fidéliser un public enfantin avec une gamme de jouets et un dessin animé qui est très intéressant sur le plan ludique d'ailleurs, parce qu'en fait la trame narrative du dessin animé c'était ce qu'on voyait dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire c'était un groupe d'enfants qui était perdu dans un monde imaginaire et qui se voyait attribuer des rôles de Donjons et Dragons, le guerrier, etc., et qui devait trouver la sortie pour regagner son propre monde. Donc c'était vraiment une métaphore de Donjons et Dragons en dessin animé. Donc il y avait déjà cet effort, en quelque sorte, de Donjons et Dragons de diversifier ses publics. Et puis on retrouve aussi de l'autre côté cette même ambition de la part des industriels du jouet traditionnellement dirigé vers l'enfance, comme Lego. Donc autant par les licences avec Harry Potter que avec des jeux originaux. Donc un dungeon crawling typiquement Lego ici, Heroica. Voilà, et avec la même chose chez Playmobil sur sa gamme de jouets. Et dernier point, et j'en aurai fini, le fait que adultes, pas seulement jeunes adultes, qu'adultes et enfants participent à la même culture, jouent au même jeu, se voit depuis quelques années, et notamment en reprenant l'exemple de Warhammer. En bas à droite, vous avez une photo, donc une publicité en fait pour les magasins de l'éditeur, pour les magasins Games Workshop. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces photos? On voit des enfants qui ont une dizaine d'années, on va dire, qui est la cible donc sur cette publicité. Et par contre, vous avez des images de tournois au-dessus, donc des tournois officiels. Et là, vous avez un public beaucoup plus diversifié. Vous avez des adultes, vous avez des enfants qui jouent l'un contre l'autre. Donc, c'est une logique qui était déjà en marche, j'allais dire, dans les milieux ludiques les plus pointus et qui semble se diffuser petit à petit au fur et à mesure aussi que, plus globalement, on ait ce phénomène de cloisonnement des hiérarchies culturelles entre ce qui est lettré, ce qui est légitime et ce qui est populaire. Donc cloisonnement qui disparaît peu à peu. Voilà, et je vais en rester là, je crois.
Merci beaucoup, Antoine de Saint-Denis. Merci pour cette présentation très claire sur ces mises en réseau, en lien. J'en entendais, vous voyez, réagir. Est-ce que vous avez des questions, des compléments à apporter, des réactions? Que ce soit sur les jeux vidéo, les jeux de rôle, on a abordé pas mal de choses.
Et vous sembliez dire en conclusion que la culture légitime et la culture populaire se rapprochaient. Or, est-ce que ce genre de production a quelque chose de partie de la culture légitime? Je ne suis pas sûre qu'elle devienne légitimée par certaines instances, ok, mais ce n'est pas ce qu'on met sous le concept de culture légitime, quand même, il me semble.
Alors, je n'ai pas exactement dit qu'elle se rapprochait. Ce qui semble se dessiner, c'est plutôt une mise à distance de ces catégorisations dans le sens où il va pas y avoir on va pas discriminer entre ces goûts, entre ces pratiques, selon que traditionnellement on ancre tel ou tel univers ou telle fiction dans la culture légitime ou dans la culture populaire. C'est ça que j'entendais par là. J'ai pas dit qu'il y a une... Parce que le problème de ce concept de légitimité, c'est qu'effectivement, tout peut se légitimer à partir du moment où il y a un succès populaire ou critique, où il y a un discours dessus, où il y a une réflexion dessus, où il y a une culture critique dessus aussi. Donc, le problème, ce n'est pas de légitimer ou pas, c'est vraiment de mettre à distance des catégories qu'on reçoit comme artificielles.
Non, et on va pouvoir accueillir Fabrice Collin et Stéphanie Nico, que je vois à l'entrée. Merci encore, Antoine de Fagne.